En 333 avant notre ère, au cours de sa campagne militaire en Cilicie, Alexandre atteignit la ville de Malos. Une fois la ville prise, il se rendit au tombeau du voyant orgien Amphilochos pour lui offrir les sacrifices dus à un héros. Après avoir apaisé les querelles politiques internes dans la ville, il remit aux habitants les tributs qu'il avait dû payer à Darius, et je cite, « par considération pour ce peuple, colonie argienne qui tirait, comme lui, son origine d'Héraclès ». Au début de l'année 324, sur le chemin du retour de sa campagne en Inde, Alexandre arriva à la ville perse de Suse, ce qui marqua la fin de l'expédition d'Alexandre. À Suse, il organisa une cérémonie du mariage à la manière des Perses, non seulement pour lui-même, mais aussi pour les 80 hétéroïs, ses compagnons, qu'il voulait marier avec les filles des Perses et des Mèdes les plus illustres. Il donna une dot à chacune des épouses, et en même temps, il légitima plusieurs milliers de concubinages dans lesquels ces soldats vivaient avec des femmes asiatiques, et, je cite encore une fois, dota ces personnes et fit aussi des présents de noces à tous les Macédoniens qui épousèrent des Asiatiques et dont les noms inscrits sur des registres se montaient à plus de 10 000. Peu de temps après, lors de l'assemblée de l'armée à Opis, un conflit éclata entre Alexandre et les troupes macédoniennes. Le mécontentement de celles-ci avait été causé par une nouvelle intégration d'importants contingents perses dans l'armée et par le licenciement simultané d'un grand nombre de vétérans macédoniens. Les soldats macédoniens craignaient d'être de plus en plus marginalisés. Ils protestèrent haut et fort pendant l'assemblée et prirent Alexandre à partie. Deux jours plus tard, un raccommodement eut lieu après qu'une délégation menée par Calliclès avait rendu visite à Alexandre pour lui demander pardon et lui proposer une réconciliation. Arrien rapporte leur dialogue en ces termes. Vous contristerez les Macédoniens princes en vous alliant aux Perses, en nommant les Perses votre famille, votre Sungeneis, en permettant à des Perses de vous embrasser, honneur que vous refusez à des Macédoniens. Alors Alexandre, l'interrompant, vous serez tous mes pareils, ma famille, je ne vous donne plus d'autres noms. À ces mots, Calliclès s'approche, l'embrasse. Ces célèbres scènes de l'Anabase d'Alexandre peuvent servir de référence pour étudier plusieurs aspects essentiels de l'histoire hellénistique, en particulier celui de l'hellénisation ou de la confrontation de la culture grecque avec les cultures locales. Dans ma perspective, elles permettent d'analyser l'introduction des métaphores de la famille ou de la parenté dans les discours politiques. L'événement relaté dans la première scène marque ainsi le début d'un nouveau phénomène de la période hellénistique, à savoir l'emploi de mythes de la parenté comme moyen diplomatique dans les relations entre États. À partir de la seconde moitié du IIIe siècle avant notre ère, un grand nombre de villes d'Asie mineure ont commencé à se glorifier de leur passé grec jusqu'alors inconnu. En se servant du lexique de la Syngenéia, de la parenté, elles affirmaient qu'elles avaient pour fondateurs de personnages grecs mythiques, découvraient leurs racines et se déclaraient parents. Les deux autres scènes, rapportées par Arrien, présentent Alexandre comme le père de ses anciens et de ses nouveaux sujets. Il se montre soucieux de leur sort en arrangeant des mariages, en légitimant des concubinages et en vient même à accorder des dots aux épouses perses à la manière grecque. Percevant les craintes de ses soldats, il y répond en les déclarant ses parents. L'emploi des métaphores familiales dans le langage politique n'est pas nouveau. L'image de la nation comme grande famille, « the nation as family », sert le lien cognitif pour articuler certaines idées au niveau de la famille avec des idées abstraites à l'échelle de l'État. Grâce à l'emploi de cette métaphore, la conception qu'on s'est fait des relations familiales idéales peut être transposée sous forme de représentation idéale du citoyen et de l'art de gouverner. Ce sont des idées de cet ordre que l'on trouve à l'arrière-plan d'expression comme le patrios nomos, la mère patrie, la maata bharat en hindi, la mère inde, ou encore celle de Mutti Merkel, la maman Merkel. Ce qui est nouveau, c'est le revirement causé par l'emploi très répandu, implicite et explicite, des métaphores familiales dans les discours publics de l'époque hellénistique. Ce langage politique, parsemé de métaphores familiales, a été propagé par les souverains de l'ère hellénistique. La raison en est, sans nul doute, à chercher dans leurs efforts pour établir de nouvelles dynasties, efforts pour lesquels ils avaient besoin du soutien et surtout de l'acceptation de leurs officiers et de leurs nouveaux sujets. Quelle image de la famille ont-elles été alors présentées au public? Peut-on relever des différences entre les différentes maisons royales? Et comment ces nouvelles formes de communication ont-elles été reçues par les poleis ou les élites? Même si pour les souverains hellénistiques, la métaphore de la famille est un moyen au service d'une argumentation spécifique, on peut logiquement supposer que les poleis ou les élites y ont également vu une image appropriée pour communiquer leurs propres idées. On peut dès lors s'attendre à observer plusieurs réactions possibles, comme de reprendre cette métaphore, de la rejeter ou de la transformer. Après le règne d'Alexandre, les diadoques durent justifier leur prétention au pouvoir, consolider leur nouveau rang et le stabiliser, ce qui présentait des difficultés surtout pour les diadoques de la deuxième génération. Comme ils n'appartenaient pas à la famille des Argéades, leur exploit guerrier ne pouvait guère suffire comme seule légitimation à long terme. Afin d'établir leur propre famille comme lignée dynastique, ils durent recourir à d'autres stratégies de légitimation. Celle-ci pouvait consister à donner à leur ascendance une origine divine, remontant à des mythes fondateurs, à recourir à l'idéalisation sacrée du souverain, à donner de lui un autoportrait en sauveur, sauter, en homme pieux, Eusebès, et en évergète, bienfaiteur. Mais cette stratégie pouvait aussi comprendre l'endogamie et l'implication de la famille dans la mise en scène du pouvoir. À lui seul, l'éventail de surnoms donnés au roi, comme Nicanor, le victorieux, Philopator, celui qui aime son père, Philométor, celui qui aime sa mère, et Philadelphos, celui qui aime sa sœur ou son frère, reflète cette diversité de stratégies de légitimation ainsi que l'importance donnée à la continuité dynastique. L'implication de la famille, en particulier de l'épouse, dans les efforts pour préserver le pouvoir conquis est surprenante, car, comme l'a écrit Anne-Catherine Harders, et je cite, « un roi n'a pas besoin d'une reine pour gouverner avec succès ». Néanmoins, après la mort d'Alexandre, on vit apparaître non seulement un nouveau type de roi, le basileus hellénistique, mais aussi la basilissa hellénistique. La nécessité d'utiliser la succession dynastique pour légitimer les royautés hellénistiques a créé un nouveau cadre d'action, non seulement pour le roi en tant qu'héritier, époux et père, mais aussi pour la reine en tant qu'épouse et mère. Les épouses royales auraient peut-être pu remplir un tel rôle sans se voir attribuer de statut officiel significatif, mais les dynasties hellénistiques choisirent d'accorder une importance particulière aux reines à côté des rois. Une des conséquences du rôle public joué par la reine fut que le roi hellénistique, malgré son énorme pouvoir personnel, dut, au moins en partie, définir son identité officielle en référence à sa femme, ce qui était tout à fait nouveau. C'est précisément pour cette raison que le rôle de la reine put devenir à la fois un soutien et un élément compromettant pour la définition exclusivement masculine du pouvoir royal. La dynastie des Argéades, sous Philippe le IIe, avait déjà commencé à impliquer les reines dans la représentation qu'un souverain donnait de lui-même. Mais le phénomène s'accentua vers 306 avant notre ère avec l'adoption du titre de Basilissa par les épouses royales. Lorsqu'au début du IIIe siècle, la pratique macédonienne de la polygamie fut remplacée par la monogamie, même s'il s'agissait d'une monogamie en série, la présence de deux personnes sur le trône s'est imposée comme modèle de représentation. Cette dualité a pris une forme extrême dans le mariage entre frères et sœurs inauguré par Ptolémée le IIe. L'union de ce dernier avec sa sœur Arsinoé la IIe faisait de l'identité des ascendances matrilinéaires et patrilinéaires des époux le signe d'une double légitimation. Aussi, devant elle, le modèle standard de l'image ptolémaïque du pouvoir. À cette fin, furent créées des formes de représentation spécifiques, comme le double portrait que vous voyez ici. Ce seul fait montre clairement que la reine n'était pas seulement devenue partie intégrante de l'image officielle du roi, mais qu'elle la complétait. Cette solution endogamique permettait de bannir les incertitudes liées à tout mariage, comme le souligne également la formule officielle par laquelle on s'adressait aux époux royaux en les appelant frères et sœurs. Si l'on considère que cette formule de salutation n'était pas utilisée seulement chez les Ptolémées, comme le montrent les exemples d'Antiochos le IIIe et de Laodicée, on peut en conclure que l'emploi de cette formule n'était pas simplement l'expression de la parenté biologique, mais surtout celle des liens familiaux. La perpétuation de la lignée familiale et héréditaire était le but commun d'un couple royal agissant de concert. Ce but commun, poursuivi par les couples royaux, devait être défini et communiqué publiquement. La construction de la première famille du royaume s'est déroulée de différentes manières et sur plusieurs niveaux dans les dynasties hellénistiques, et elle a connu différentes mises en scène. Ce fut là une occasion pour définir les rôles masculins et féminins au sein de la famille et dans la représentation qu'on donnait d'elle à l'extérieur, c'est-à-dire dans l'exercice du pouvoir. Il fallait faire accepter l'affirmation que le souverain était un être élu par différents groupes, depuis la cour royale jusqu'au sujet, voire des personnes et des institutions extérieures au royaume. Afin de transmettre ce qui était nouveau, on se servait de modèles généralement admis, mais en employant des moyens de communication très divers. L'historiographie, la poésie, la frappe de monnaie, la sculpture, l'architecture, les actions de bienfaisance, les cérémonies et les actions du culte. Dans cette perspective, la position de la reine est explicité par ses qualités d'épouse aimante, soutenant son époux, et de mère pleine de sollicitude. Les poètes de la cour ptolémaïque soulignent l'amour mutuel que se portent le roi et la reine. Ainsi, dans le poème de Callimaque, La boucle de Bérénice, on voit Bérénice la deuxième pleurer l'absence de son mari Ptolémée le troisième, parti en campagne militaire en Syrie. Et je cite, « Ô combien sur ta couche solitaire tu plairas ton veuvage et l'absence d'un frère adoré. Quel chagrin dévorant rongeait alors ton cœur. Et pourtant, j'étais connue si courageuse dès ta plus tendre jeunesse. As-tu donc oublié cette action héroïque que les plus grands guerriers auraient à peine osé et qui te valut et l'humain et le trône? Mais qu'ils furent tristes les adieux que tu adressas à ton époux en le quittant. » Théocrite lui aussi souligne l'amour exceptionnel unissant Arsinoé la deuxième et son mari et frère. Il compare leur mariage avec le Hieros Gamos du couple olympien, des frères et sœurs qu'étaient Zeus et Héra. Des aspects de la vie privée du couple royal, et surtout leur amour conjugal, analogue à l'amour divin, sont présentés au public. Ici, le roi combattant est vainqueur, là, l'épouse aimante et courageuse. Leur amour mutuel et leur solidarité, l'un envers l'autre, forment la base sur laquelle devait reposer la prospérité de la dynastie, mais aussi le bien-être du royaume et de ses sujets. On retrouve le même choix minutieux dans le portrait de la reine en tant que mère. Un épisode relaté par Polybe raconte le retour d'Apollonis, l'épouse d'Attale le premier de la dynastie des Attalides, accompagnée par deux de ses quatre fils dans sa ville natale de Cyzique. Et je cite, au cours de leur séjour à Cyzique, Attale et son frère conquirent l'estime de tous en témoignant à leur mère toute la gratitude et tous les honneurs qu'elle méritait. Ils la placèrent entre eux deux et, la tenant chacun par une main, parcoururent les sanctuaires et la ville en grand cortège. Devant ce spectacle, le public acclamait les jeunes gens et les couvrait de louanges. On évoquait Cléobis et Biton pour les comparer à eux et l'on estimait que si le dévouement de ces derniers s'était manifesté de façon plus éclatante, cela a été compensé chez les deux princes par la splendeur de la dignité royale. Une image de continuité familiale et d'harmonie dans laquelle la reine occupe la place centrale, non seulement en tant que mère, mais en tant que garante des valeurs familiales. Apollonis eut la chance d'avoir de beaux enfants, Kalitechnesasa, et d'avoir vécu avec son mari magnifiquement, mégaloprépos, comme le souligne le décret posthume d'Hierapolis. Après la mort de son époux, elle s'occupa de l'éducation de ses enfants et surtout, dotée de l'autorité de la famille, elle s'efforça de maintenir l'équilibre entre les membres masculins de la famille. Elle réussit ainsi à préserver la réputation et les valeurs de la famille et à œuvrer pour la continuité dynastique à bien des égards. Après la mort d'Apollonis, ses fils firent édifier à Cyzique un temple en son honneur, dont la façade était ornée de scènes mythiques illustrant l'amour des enfants pour leur mère. Ces scènes nous sont connues grâce aux épigrammes de l'anthologie palatine. L'une d'entre elles représentait l'histoire de Cléobis et Biton, mentionnée par Polybe. Le temple de Cyzique est ainsi devenu un lieu collectif de mémoire consacré à la reine-mère, mais aussi aux idéaux de la famille des Attalides qu'elle avait incarnés. Bien que les qualités d'une reine en tant qu'épouse et mère puissent former la base de la continuité dynastique, elles ne déploient pleinement leur effet que si elles sont utilisées non seulement au sein de sa propre famille, mais aussi dans l'exercice de ses fonctions de reine. Vers 196-95 avant notre ère, la reine Laodicée annonce dans une lettre aux habitants de Iassos son projet de faire don d'une grande quantité de céréales à la ville pendant 10 ans. Son intention était de créer un fonds avec le produit de la vente des céréales qui permettrait de financer les dots pour les filles des citoyens pauvres. Pour une petite ville comme Iassos, qui se trouvait alors dans une situation précaire, cette fondation offrait non seulement une dot pour une vingtaine de mariés, mais un avantage général pour l'ensemble du peuple. Laodicée apparaît ici en premier lieu comme la protectrice des filles non mariées et du mariage. C'est cette qualité qui immortalise les habitants de Iassos lorsqu'ils décident, pour la remercier, d'organiser une procession annuelle de jeunes filles, de Parthénoï, le jour de l'anniversaire de la reine Laodicée Aphrodite, sous la conduite d'une prêtresse choisie pour l'occasion. Cette procession des épouses potentielles devait être encadrée par des couples de fiancés qui, après leur mariage, devaient offrir en sacrifice à la reine déesse comme à leur protectrice personnelle. On retrouve ce portrait de la reine en protectrice du mariage et des épouses dans un décret de Théos, datant de 203 avant notre ère environ, concernant Antiochos le IIIe et Laodicée. Dans la longue série d'honneurs rendus au couple royal, ressort la construction d'une fontaine dans l'Agora, dédiée à Laodicée, dont elle devait porter le nom. Cette fontaine serait un exemple, je cite, serait un exemple de la vénération qui ne montre pas seulement notre reconnaissance actuelle, mais qui honore aussi pour toujours sa mémoire. Son eau devait être utilisée par tous les prêtres et toutes les prêtresses pour les sacrifices, par tous les citoyens pour leur purification rituelle et par les mariés pour les bains nuptiales. Dans tous ces cas, ceux qui allaient puiser de l'eau à la fontaine devaient porter des vêtements blancs et des couronnes blanches. Comme les fontaines étaient des lieux privilégiés de socialisation féminine dans les villes, la fontaine, la Laodicea de l'Agora, avec le va-et-vient continuel de personnes spécialement habillées pour la circonstance, rendrait sensible à chaque instant la relation entre la reine, les actes rituels, la communauté et le mariage. Ces exemples montrent comment les qualités traditionnelles attribuées à la femme sont désormais inscrites dans de nouvelles formes de représentation et dans les pratiques rituelles. Elle donne une valeur plus haute à la personne de la reine et lui confère une fonction de modèle pour ses sujets féminins. Néanmoins, l'image ainsi créée oscille entre caractérisation de la reine en élue et l'éloge de la mère et l'épouse, conforme aux valeurs traditionnelles. Alors que la reine était perçue comme étant située dans une sphère religieuse et mythique par son association et son identification avec une ou plusieurs divinités, le code féminin l'a rapprochée à nouveau du peuple et des autres femmes. Les références directes et indirectes aux maris et aux frères dans les textes, mais aussi une certaine division du travail en fonction du sexe dans les actions publiques du couple royal, souligne la hiérarchie traditionnelle et les normes traditionnelles de comportement. Par leur omniprésence dans la vie politique, économique, religieuse et culturelle de leurs sujets et des poleis, les familles royales réussirent non seulement à s'imposer comme les premières familles, mais aussi à présenter des modèles familiaux nouveaux et provocants. En accordant une importance différente aux membres respectifs de la constellation familiale, en particulier dans le cas du mari et de la femme, elles ont pu développer un profil original et l'exposer au public par des moyens médiatiques appropriés. L'accent mis sur l'unité du couple royal chez les Ptolémées, l'insistance sur l'harmonie familiale chez les Attalides et sur la complémentarité mutuelle des époux chez les Séleucides représentent différentes stratégies visant à assurer la continuité dynastique. Mais ces différences ne doivent pas masquer le fait qu'elles reposent toutes sur un modèle familial analogue. Celui-ci comporte une image extrêmement masculine du souverain, très étroitement associée à l'image féminine de son épouse. Tous deux forment une direction bicéphale ou une sorte de partenariat. À ce titre, ils sont tous les deux responsables de l'oïkos royal et de sa représentation à l'extérieur. Jim Roy a fait remarquer qu'on ne discerne pas de ligne séparant nettement les actions publiques du roi et celles de la reine. Les limites imposées aux actions de la reine étaient très vaguement définies. S'il n'y avait pas de conflit, ou en tout cas pas de conflit public, entre la politique du roi et les activités de la reine, celle-ci pouvait se voir accorder une place importante dans la vie publique et même intervenir dans une partie des affaires de l'État, mais que cela soit perçu comme sans que cela soit perçu comme compromettant le pouvoir du souverain ou son image publique. De plus, cette absence de démarcation donnait précisément une certaine souplesse au rôle joué par les épouses royales qui pouvaient intervenir de différentes manières. C'est ce que l'on voit également dans l'identification des reines avec des divinités féminines. Ainsi, Arsinoé, Théa Philadelphos, est-elle, en tant qu'Aphrodite, la protectrice de l'amour et du mariage, en tant qu'Aphrodite Eupléa, la protectrice des marins, et en tant qu'Aphrodite Areia, une déesse armée pour la guerre. L'association avec Aphrodite souligne un thème central chez les Ptolémées, tandis que l'Aphrodite Euploïa fait passer au premier plan la politique maritime ptolémaïque et qu'Aphrodite Areia fait le lien avec la tradition des Argéades. La conception de la famille, développée par des maisons royales hellénistiques, a-t-elle exercé une influence aussi sur les sociétés hellénistiques? Il n'est pas facile de répondre à cette question, car cette nouvelle conception comporte de multiples aspects et ses destinataires, les poleis, les élites, les communautés non grecques, ne sont pas non plus homogènes. Lorsque des poleis grecs comme Iassos ou Théos répondent au langage de l'évergétisme et de la famille des rois et des reines et rendent ceci visible au milieu de leur ville par des statues, des lieux de mémoire, des cultes et des rituels, ces actions sont d'abord à comprendre comme les résultats de négociations dans le cadre d'un dialogue politique. Mais l'adoption, l'adaptation ou encore le rejet de formes de représentation et d'idées royales peuvent aussi marquer à court ou à long terme la vie dans les sociétés en question et déclencher des processus locaux. Les nouvelles formes de représentation des élites dans les poleis, surtout l'érection de statuts de groupes familiaux, peuvent être comprises comme des adaptations de l'idéologie royale et de ses manifestations. Épictète ne s'inspire-t-il pas du couple royal ptolémaïque en fondant le Muséon et en instaurant des sacrifices pour son couple et ses fils. Et comme une adaptation de l'idéologie royale sur le mariage, je voudrais interpréter les célébrations du mariage maintenant devenant événement public. C'est comme ça qu'Athénos, au IIe siècle avant notre ère, la célébration en public de la cérémonie privée du mariage fut l'occasion d'un décret d'une tribu. Et je cite, « Quand Médéos a accompli l'ecdosis de sa fille Philippe et que Souniadis a reçu sa fille, ils ont régalé pendant plusieurs jours tous les citoyens et les étrangers à l'occasion des noces. » Et après la célébration du mariage et l'offrande des sacrifices, ils ont de nouveau festoyé tous les citoyens et les étrangers présents dans la ville pendant 2 jours. Akos également, peu après 198 avant notre ère, à l'occasion des statuts concernant la vente de la prêtrise de l'Aphrodite Pandémos, l'Aphrodite de tout le Démos, la ville décida, et je cite, que ce faisant, toutes les femmes, parmi les citoyennes, les bâtardes et les métèques, lorsqu'elles se marient, devaient honorer la déesse selon leurs possibilités, et que les femmes, quelles que ce soient celles qui se marient, doivent toutes sacrifier un animal à la déesse dans l'année qui suit le mariage. Tandis que le mariage, le couple des époux et la famille dans son ensemble, avec ses membres féminins et masculins, font l'objet d'une attention publique toujours plus grande, d'autres voix s'élèvent à propos de l'oikosmia, du bon ordre, de la bonne conduite des femmes. Cette notion de kosmia est d'abord associée au gynéconome, contrôleur masculin formant une sorte de police de mœurs qui firent leur apparition dans les polis entre le IVe et le Ier siècle avant notre ère. Ils avaient notamment pour tâche de surveiller le comportement des femmes lors des fêtes, des processions, des cérémonies de culte et de funérailles. Les rites funéraires font ainsi l'objet d'une loi adoptée par la ville de Gambreion en Asie mineure au IIIe siècle avant notre ère. Cette loi comprenait des réglementations concernant la période de deuil, qui devait s'appliquer à la fois aux hommes et aux femmes, mais pas dans la même mesure. Ce qui montre que le groupe visé par cette loi était en premier lieu celui des femmes, ce n'est pas seulement l'asymétrie entre les hommes et les femmes à propos des vêtements et de la durée du deuil. C'est surtout le fait que les femmes qui transgressaient ces règles étaient punies par les gynéconomes pour manque de respect envers les dieux, à Sébéia. Elles étaient exclues de tous les sacrifices offerts à toutes les déités pendant 10 ans. Les spécialistes ont souvent dit que les fonctions exercées par les gynéconomes étaient anachroniques, l'expression nostalgique de valeurs aristocratiques. Mais cette interprétation est contredite par le fait que l'on rencontre aussi cette image de la femme désobéissante ou impure dans un autre type de texte. Il s'agit de normes rituelles comportant des listes de prescriptions concrètes sur les conditions auxquelles quelqu'un qui s'est trouvé en situation d'impureté pourra de nouveau entrer dans un sanctuaire et participer à un culte. Ces textes, qui concernent avant tout les cultes d'Isis, de Sérapis et de divinités syriennes, présentent une étonnante homogénéité, alors qu'ils proviennent de régions différentes et d'une période allant du IIIe au Ier siècle avant notre ère. Ces prescriptions portent sur le nombre de jours pendant lesquels une personne impure doit se tenir éloignée du sanctuaire ou sur les types de purification auxquels elle doit procéder ou sur les dieux. Les causes d'impureté les plus fréquemment mentionnées sont la naissance et les fausses couches, l'avortement, les relations sexuelles ou le décès d'un membre de la famille. Le fait que la plupart de ces facteurs d'impureté touchent à la vie sexuelle des femmes et qu'ils sont plus graves pour elles que pour les hommes, comme en témoignent les plus grands nombres de jours d'abstinence qui leur sont imposés, révèle une asymétrie entre les sexes au point de vue de leur statut d'impureté potentielle. C'est cela qui doit être contrôlé, comme c'était déjà le cas dans la loi édictée à Gamprelion. Est-il possible d'entrevoir derrière ces règlements l'émergence d'un autre modèle de femme, celui de la femme pure, c'est-à-dire qui contrôle la femme qui contrôle sa sexualité? À cet égard, il est intéressant de lire la section de la réglementation d'un culte privé de Philadelphie en Lydie qui concerne le comportement sexuel des hommes et des femmes. Et je cite « Qu'un homme ne séduise pas, en plus de sa propre femme, une autre, libre ou esclave, qui a un mari, ni un enfant, ni une vierge, ni ne conseille à un autre de faire de même. » La femme ou l'homme qui aurait fait ce qui a été mentionné ci-dessus ne doit pas intégrer cette maison. Qu'une femme libre soit pure et ne connaisse ni la couche ni l'union d'un autre homme que le sien. Si elle en faisait l'expérience, que celle-ci ne soit pas pure mais souillée et pleine d'une souillure se répandant sur sa parenté, indigne d'honorer ce Dieu dont les rites ont été établis, d'approcher les sacrifices, ni de regarder ni de voir la célébration des mystères. Si elle fait l'une de ces choses après que les recommandations ont été retranscrites ici, de terribles malédictions divines frapperont celle qui contrevient à ces instructions. Ces clauses rappellent celles des contrats de mariage, par lesquels les époux s'engagent mutuellement à renoncer aux relations extra-conjugales. Dans ce dernier cas, les transgressions entretenaient la séparation des époux et la restitution de la dot, mais sans que ces sanctions aient impliqué des connotations morales. Il avance différemment dans la réglementation de Philadelphie. Les relations extra-conjugales ne sont pas seulement interdites, elles sont aussi condamnées par la divinité. Mais les conséquences sont plus graves pour une femme. Elle seule est déclarée souillée, indigne d'honorer les dieux, et sa souillure est tellement dangereuse qu'elle risque de s'étendre à toute sa parentèle. La femme adultère est mise au ban, socialement et religieusement, tandis que l'homme adultère n'avait à subir que des conséquences bien moindres. Par ces actions, le mariage est indirectement magnifié et protégé comme étant le seul lien social valable. Mais elle montre aussi clairement quelle était l'idée dominante que l'on se faisait de l'hiérarchie des époux au sein du couple de mariés. Faire d'une femme désobéissante, une femme souillée, censée représenter un danger potentiel pour son couple, mais aussi pour sa famille, était une mesure visant à garantir cette hiérarchie. Moi, je suis Isis, la souveraine de toute contrée. J'ai uni la femme et l'homme. J'ai ordonné que les hommes chérissent des femmes. J'ai inventé les contrats de mariage. Ces phrases tirées de l'aratalogie d'Isis font écho à certains des thèmes qui ont joué un rôle important à l'époque hellénistique. le mariage, la conception du couple marié et de relations entre époux, la position des membres féminins au sein de la famille, les fondements du mariage et de la famille dans le droit patrimonial. Les documents nous permettent d'analyser comment la dynamique inhérente aux familles se déploie dans le cadre des défis politiques, sociaux et culturels de cette période. On observe également comment le mariage, le couple et la famille ont été intégrés dans les discours de l'époque. Ces différents types de discours, discours de légitimation des dynasties royales, discours portant sur la conduite de la vie conjugale, discours des élites à propos de leur position dans la police, présentent une grande variété d'idées sur ce qu'est un mariage et ce que doit être la relation entre les époux. On y rencontre de nombreux modèles du couple idéal. Le couple traditionnel, le couple dont les époux ont des rôles complémentaires, le couple unissant des compagnons. Cette variété reflète les efforts déployés pour faire face à de nouvelles situations avec des solutions appropriées. Et cela vaut aussi bien pour les dynasties hellénistiques que pour les élites urbaines. Les stratégies et les formes de représentation de soi des souverains n'ont pas manqué de marquer les élites urbaines. Celles-ci ont surtout perçu l'effet produit par la présence multiforme de la maison royale. Les dédicaces, les statues, les actions de bienfaisance, les inscriptions du roi et pour le roi, la reine et les membres de leur famille, toutes ces manifestations ont créé de nouveaux espaces de communication, de nouveaux points de référence et de nouvelles formes d'occupation et de la sphère publique. L'intervention des membres féminins de la famille et leur apparition dans la sphère publique sont donc les résultats de l'aspiration des élites masculines à une forme d'autoreprésentation qui soit à la fois efficace et acceptée par la police et qui s'est exprimée principalement par l'érection de monuments familiaux. Ce ne sont pas des textes, mais le nombre de statues et les dimensions de l'exèdre sur laquelle elles sont disposées qui racontent quelle position occupe une famille dans une société locale. La compétition au sein des élites ne s'est donc pas seulement déroulée au niveau de la communauté politique des citoyens, mais aussi à celui des représentations familiales. Les épouses, les mères, les grands-mères, les filles, les sœurs et les tantes y ont activement participé et ont soutenu financièrement la carrière des membres masculins et le prestige de leur famille. Elles avaient certes déjà apporté ce soutien par le passé grâce à l'emploi de leur dot ou des bénéfices que celles-ci pouvaient dégager, mais elles purent désormais intervenir en tant que partenaire, pour ainsi dire, dans ce projet familial commun et même mener à bien des projets personnels au nom de la famille. Tous ces processus dialectiques entre les maisons royales et leurs sujets, entre les élites et les villes, entre les membres masculins et les membres féminins de la famille, n'ont pas conduit à une dissolution de la famille, mais à sa confirmation et même célébration comme groupe social par excellence. La visibilité de la femme hellénistique doit être comprise comme un des éléments de ce phénomène. Permettez-moi de conclure par une petite anecdote venue de la Chine lointaine. L'empereur de Chine, Hongwu, fondateur de la dynastie Ming au XIVe siècle de notre ère, entendit dire que la famille Zheng était appelée la première famille du monde. Il fit immédiatement venir à lui le chef de la famille Zheng. L'empereur lui demanda quel genre de famille est la tienne pour que l'on appelle la première famille du monde. Le chef de famille répondit: Le gouverneur du pays sait que ma famille vit ici depuis 8 générations et que pendant tout ce temps, il n'y a pas eu un seul incident déshonorant. C'est pourquoi il nous a donné une plaque portant l'inscription « Première famille du monde » en défense et illustration des bonnes mœurs. Je n'oserais certainement pas me donner moi-même ce titre. Combien de personnes comprend ta famille, voulut savoir l'empereur. Plus de 1000, répondit Tseng. Entendant cela, l'empereur se prit d'une haute estime pour lui. Soudain, la voix calme de l'impératrice Ma se fit entendre. Son Altesse a commencé son ascension avec une seule personne et elle a conquis le monde. Tseng a tant de personnes avec lui, n'est-ce pas plus facile? L'empereur réfléchit un instant, puis demanda « Quel est ton secret pour gouverner la famille ?»« Je n'écoute jamais l'opinion d'une femme, » dit Tseng. L'empereur s'est mis à rire et le renvoya chez lui, car il savait qu'il ne pouvait rien faire sans une femme vertueuse et intelligente. Cette prise de conscience s'est manifestée à bien de reprises pendant l'époque hellénistique. Mais bien entendu, elle n'est jamais parvenue à s'imposer. Je vous remercie de votre participation et je te remercie pour ton invitation. Merci beaucoup.